Il y a une deuxième série de textes bibliques qui sont liés au ministère de Jésus. Nous avons d'abord dans Luc, au chapitre 2. Lorsque Jésus eut 12 ans, ses parents l'emmenèrent avec eux, selon la coutume, à Jérusalem. Et quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Puis dans Luc 3, nous avons « Quand tout le peuple fut baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu es toute ma joie, où on trouve encore, écoutez-le. » Toujours dans Luc, au chapitre 4, nous avons « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Arrêtons-nous un instant, nous n'en parlons pas souvent de ce désert vécu par Jésus. 40 jours dans le silence, dans la solitude, dans une certaine difficulté à vivre, Jésus se prépare à son ministère. Puis nous lisons dans Matthieu 4. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux frères pêcheurs, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jésus commence son ministère en recrutant des disciples. Il va former un petit groupe qui sera à la fois son support logistique et plus tard les envoyer pour pouvoir parler de la bonne nouvelle. Enfin, lisons. Encore lisons dans Marc. Nous nous trouvons ici devant les enseignements de Jésus. Par exemple, il parle avec le jeune homme riche et lui dit « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » Puis nous trouvons au chapitre 12, « Écoute Israël, notre Dieu est le seul Seigneur. Voici le premier commandement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Et ici, nous pouvons observer que dans la première lecture, nous étions avec un vocabulaire négatif. Tu ne feras pas, tu ne commettras pas, comme si on était liés, alors que Jésus dit « aime », positif et tourné vers Dieu et vers les hommes. Plus loin, nous avons dans Matthieu, au chapitre 8, j'ai perdu des petits papiers, quand le soir fut venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. par sa parole, Jésus chassa ses esprits et il guérit aussi tous les malades. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Ici, nous voyons le ministère de Jésus à travers ses guérisons, c'est-à-dire que quand il guérit, il remet debout, il rend à la vie sociale des gens qui étaient exclus. Maintenant, regardons dans Marc. Les femmes sont allées au jardin. Elles ont vu le tombeau vide, elles ont cru qu'il y avait un jardinier et ont reconnu Jésus. Et Jésus leur dit, « Allez maintenant et dites aux disciples que vous m'avez vu. » Mais elles sortirent et s'enfuirent, car elles étaient toutes tremblantes. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Dans d'autres textes, nous voyons aussi que ces femmes vont parler aux disciples. Quand ils entendirent ce qu'elles disaient, que Jésus était vivant et qu'elles l'avaient vu, ils ne les crurent pas. Puis Jésus apparut à deux autres disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et racontèrent aux autres qu'ils l'avaient vu, mais ils ne les crurent pas non plus. Nous sommes ici devant cette situation incroyable qui ne fait pas partie de la pensée que représente la résurrection. Et enfin, prenons deux textes concernant les promesses de Jésus. Dans Jean, mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Un autre texte. Dans 14. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Et je vous propose de chanter la troisième strophe de « Comme un vase, comme un souffle fragile, ta parole se donne ». Voici, c'est sans doute la dernière fois que je me présente devant vous pour guider un culte, l'âge venant. Et j'ai encore la joie d'utiliser ce petit cahier, la première mise à jour de ce qu'on appelle la nouvelle liturgie. Plusieurs d'entre vous ne connaissent que cette liturgie, et pourtant, comme elle est venue nous apporter de l'air avec des mots simples, des mots proches de nous. Vous avez entendu ce qui était dit au début. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Quatre petites phrases et toute notre communauté y est rassemblée. Cette liturgie qui continue à présenter les gros mots, les mots lourds de sens de notre foi. Les mots comme péché, pardon, parole, espérance. Amour aussi, un mot qui a tant de nuances qu'il est difficile quelquefois à prononcer. Peut-être faudrait-il utiliser le mot de tendresse. Et puis, voici que pour la première fois, je suis partie de travers. Voici pourquoi. Quand on prépare une prédication, on part en général d'un texte ou de quelques textes et on essaye d'en tirer un message pour pouvoir le partager avec tous. Et la liste des lectures quotidiennes est un petit guide bien précieux pour nous aider à avoir des repères, à nous canaliser un peu, en tout cas à nous guider. Et voilà que je suis partie à l'envers, c'est-à-dire partie de préoccupations diverses, actuelles, à la recherche de réponses dans la Bible. Et alors ce fut une avalanche de textes, de versets, de situations, un grand bazar dans lequel il fallait tailler, regrouper, essayer d'y voir clair. Alors il n'y avait plus qu'une seule solution, de revenir à la base, à la Bible, avec ses deux testaments. Un testament, ça sert à léguer, ça sert à transmettre. Alors, qu'avons-nous dans les testaments de la Bible ? Prenons d'abord le premier testament, un gros pavé qui, en tout cas dans la Bible en français courant, fait 1237 pages. Il contient de magnifiques histoires, des histoires que nous avons peut-être coloriées ou mimées quand nous étions enfants. Il y a des épopées, comme l'Exode. On a des héros, comme Abraham, Moïse, David et bien d'autres. On y trouve des prophètes à la parole forte, des prières pleines de poésie dans les psaumes, des paroles de sagesse. Mais il est aussi rempli d'horreur, de haine, de trahison, d'atrocité. Dans le deuxième livre de Samuel et les deux livres des rois, on y décrit les carnages, tous ces hommes et ces chevaux massacrés. On y trouve aussi l'histoire du roi David, qui profite de sa situation pour faire tuer le mari de la femme qu'il convoite. On a aussi Josué, qui vient prendre la place d'autres personnes qui vivaient sur un territoire. On a encore un texte affreux autour de Lot, le neveu d'Abraham, un texte qui utilise le verbe « connaître » dans un sens très, très particulier. Au point que dans mon enfance, on parlait d'une Bible expurgée. Est-ce que ça existe encore ? Alors, suis-je héritière de cet Ancien Testament ? Oui et non. Je ne fais pas partie de ce peuple, mais il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas l'oublier, le laisser de côté. La première raison, c'est ce Dieu Yahvé. Dans toutes les civilisations, on trouve un ou des dieux, ou des esprits. Et les hommes font des prières, des offrandes, Ils espèrent être protégés par une puissance supérieure. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui parle parfois directement, qui même quelquefois dialogue. Rappelez-vous ce dialogue. « Oh Dieu, s'il y a seulement 50 justes, est-ce que tu pourras épargner cette ville et ses habitants ? Oh Dieu, s'il y a seulement 10 justes, est-ce que tu pourras épargner ?» Et le Dieu répond, le Dieu est présent, il est vraiment vivant. Et puis, cet Ancien Testament, la deuxième raison, c'est qu'il nous conduit à Jésus. Jésus est imprégné de ces textes. Il est élevé dans une famille pieuse. Il va chaque jour de sabbat à la synagogue où on lit, relit les textes. Il a probablement appris à lire dans une école rabbinique, comme les enfants musulmans dans une école coranique, ou comme nos arrière-arrière-grands-parents ont pu apprendre à lire dans des écoles religieuses catholiques, quelquefois protestantes, avant qu'il y ait l'école laïque. Autrement dit, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cet Ancien Testament. Maintenant, voyons le Nouveau Testament, qui ne contient que 384 pages. On y trouve les Évangiles et les Actes des Apôtres, qui nous parlent de Jésus et inlassablement de son enseignement. Puis on a les correspondances des apôtres, avec les premières communautés chrétiennes, parce que Jésus a surtout parlé à son peuple, et c'est Paul qui va propager la bonne nouvelle et tout ce qu'il a appris de la part de Jésus. Justement, le Nouveau Testament, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour moi, cette bonne nouvelle, elle comporte deux faces. La première, c'est la promesse d'être pardonné. Quand on se repent sincèrement de ses fautes, de ses manquements, de ses ratés. C'est étonnant, cette énorme culpabilité que nous traînons jour après jour. Je n'ai pas fait comme il aurait fallu, j'aurais dû faire, j'ai mal fait. Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est mal. On en entend parler, mais sans cesse, à l'école, dans la famille, partout. Et chaque fois, on a l'impression qu'on est en faute. Alors, Jésus vient et lui, il ne juge pas, il libère. Regardez, ou écoutez plutôt, ce qui se passe avec la femme adultère. Un des textes que je préfère dans la Bible, parce qu'on y trouve une révolution silencieuse, c'est-à-dire que des hommes arrivés pleins de haine avec des cailloux pour tuer, vont repartir dans le silence. Et Jésus s'adresse à la femme tremblante. « Ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne t'ai pas condamné. Va et ne pêche plus. » Jésus nous libère d'un poids énorme. Il nous remet à neuf pour repartir avec un cœur neuf, avec un regard neuf. Et puis, la deuxième phase de la bonne nouvelle, bien sûr, c'est la résurrection, la victoire sur la mort, la promesse d'un royaume sans doute proche mais invisible pour nos sens et notre intelligence limitée, qui commence ici et où se rend Jésus. C'est troublant d'ailleurs, cette parole qui dit que Jésus est mort pour nos péchés. D'autres innocents sont morts dans des tortures. Mais il nous a aimés au point d'accepter de mourir pour nous donner cette résurrection, pour nous faire vivre la victoire sur la mort, pour nous donner le courage et l'espérance. Nous n'avons plus à avoir peur. Quelle chance d'être née après cette résurrection. Alors oui, je suis une héritière du Nouveau Testament. Je dois en parler, transmettre. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et voilà, nous nous retrouvons avec les premiers textes que j'ai lus tout à l'heure sur le migrant, le réfugié. Tout d'abord, nous sommes de moins en moins nombreux à avoir vécu la guerre 39-45. Et qui, ici, ce matin, dans notre assemblée, peut dire avoir vécu une partie de sa vie comme réfugié? Qui a eu une partie de sa vie vécue en tant que réfugié parmi nous aujourd'hui? Personne? Moi, j'étais une toute petite réfugiée du nord de la France dans le sud. Et puis, j'ai continué à parler ma langue. Je n'ai pas changé de pays. Par contre, des souvenirs de guerre, j'en ai. J'en prendrai deux. Je suis à la maternelle. Il y a un journal avec une photo. On voit un petit garçon avec une casquette sur la tête, son cartable sur le dos, l'étoile de David sur sa blouse. Ce petit garçon lève les bras devant une mitraillette. Et l'espace de 3 secondes, j'ai été ce petit garçon avec un cri intérieur. Pourquoi je dois mourir? Je n'ai rien fait. Et plus tard, des cauchemars et beaucoup plus tard, la compréhension en retrouvant cette photo. L'autre exemple, c'est la peur des avions. Un grondement sourd. Et puis le bruit s'intensifie, devient épouvantable. Les bombardiers sont juste au-dessus de nous. Les bombes, c'est pour nous, on est tout recroquevillés. Non, les bombes, c'est plus loin. 4 petites filles, aux 4 coins d'un champ de maïs, qui voient au loin, qui entendent le bruit des bombes et qui voient au loin les incendies et la fumée. Alors, maintenant, comment témoigner? Comment dire cette détresse des réfugiés qui fuient la guerre? Il y a eu ensuite les rapatriés d'Algérie. À Lyon, avec la CIMAD, on accueillait quelques personnes, mais qui étaient complètement perdues, juste avec une valise, partis devant la vague de violence qui risquait d'arriver comme un rouleau compresseur. Et puis il y a eu les boat people, qui avaient si froid chez nous, alors qu'ils n'ont pas la même température chez eux. Comment faire passer cette détresse de gens qui fuient pour sauver leur vie? Et ceux qui fuient une vie sans espoir? Et là, je prends l'exemple des Érythréens, ce pays fermé, où il n'y a même pas de journalistes, et où ceux qui arrivent à s'en sortir sont souvent pris dans des réseaux où ils sont torturés avec un téléphone portable ouvert pour que la famille au pays entende les cris et verse une rançon. Vous vous rendez compte, dans ce monde où nous sommes, et nous sommes ici, bien tranquilles, au chaud, sans problème, sans gros problème, en tout cas pour ceux qui ont pu venir ici. Et pourquoi aurions-nous peur des étrangers? J'ai eu la chance d'être étudiante, boursière et fauchée, mais étudiante, et j'ai eu des amies algériennes, tunisiennes, iraniennes. Il y avait la japonaise très discrète, la grecque qui était pleine de vie, la petite yougoslave, timide. Et puis j'ai eu une amie vietnamienne, et puis des amies allemandes. Des amies allemandes, vous vous rendez compte? Alors que mes grand-mères maternelles, ma grand-mère et grand-tante maternelle, qui avaient vécu, qui avaient été élevées en Alsace, ne parlaient que des Boches et non pas des Allemands. Quel chemin parcouru! Il y avait de quoi se réjouir. Et puis, on peut faire des découvertes quand on rencontre des jeunes étrangers, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Voilà un exemple. Il y a une soirée des étudiantes et j'essaye de parler avec un jeune Hongrois. Nous avons chacun quelques mots d'allemand à notre disposition. C'est important, les langues étrangères, encourageant nos jeunes à les apprendre. Et voilà que c'est bientôt Noël. Je lui dis, c'est bientôt Noël, alors vous allez préparer quelque chose. Il me regarde et me dit, chez moi, Noël n'existe pas. C'est un jour comme les autres. Nous allons à l'usine, au bureau. Il y a juste quelques personnes âgées qui, très tôt le matin, vont probablement à un service religieux. Vous vous rendez compte? Chez nous, Noël n'existe pas. C'était encore le rideau de fer. Et alors, je prends conscience de notre culture française, où dans nos jours de congé, nous avons plus de jours fériés qui ont une origine religieuse que de jours fériés qui ont une origine laïque ou historique. C'est incroyable, cette découverte. Et est-ce que maintenant, autour de nous, quand nous avons ces jours de congé, est-ce que nous posons des questions à notre entourage? Qu'est-ce que c'est Pentecôte? Qu'est-ce que c'est Pâques? Qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est la fête des enfants, le moment où on se donne des cadeaux. Et alors? Et puis ça s'arrête là. On a oublié un certain nombre de choses importantes. Un autre exemple, je suis allée en Algérie pendant 2 ans, au moment où Boumédienne remplaçait Benbella. Je n'ai jamais, jamais eu le moindre problème, la moindre peur. Jamais. Simplement, il fallait observer quelques règles du pays. Par exemple, une jeune femme ne sortait pas seule à la nuit tombée. Mais c'est du simple bon sens. Ne faites pas de votre liberté un objet de provocation. Par contre, quand je suis rentrée d'Algérie, ce qui m'a frappée en France, c'est la solitude. Une solitude de tous les âges. On pouvait être sur un palier et à peine se dire bonjour. L'autre chose qui m'a frappée, c'était les magasins croulants de nourriture. Et au moment de Noël, j'évitais de passer devant les vitrines des pâtisseries, des charcuteries. J'en avais la nausée. Trop, c'était trop. Dimanche dernier, on nous a parlé de ces migrants de Calais arrivés à Annecy, heureux de recevoir du matériel de toilette. Et on nous a proposé de signer un appel pour les chrétiens persécutés. J'ai été plusieurs fois attristée par des membres de notre communauté quand il y avait appel à signature. Et ces appels sont peu courants et sont toujours faits pour demander plus de justice. Des personnes qui refusaient en disant « c'est pas nos affaires, c'est pas mes affaires » ou bien « oh, je vais réfléchir », une façon de se défiler. Savez-vous que les puissants, les décideurs, sont sensibles à leur image et qu'il y a des effets de seuil? C'est-à-dire que quand il y a suffisamment de monde qui signe un appel, le puissant, celui qui prend les décisions, il est obligé d'en tenir compte. Et c'est une des façons d'agir d'Amnesty International, par exemple. On peut faire libérer des prisonniers d'opinion, on peut faire transformer des conditions d'existence. Et c'est juste une petite signature. Aller à la rencontre de l'autre, c'est plus ou moins facile, mais cela demande au moins de se laisser déranger. Quand je pense au code de nos portes, quelqu'un doit circuler tard le soir, à un malaise, s'il n'y a personne, la personne ne peut, qui a son malaise ne peut même pas entrer dans un hall d'immeuble. Partout, il y a des codes. Nous sommes barricadés derrière nos codes. Il y a aussi des expériences toutes proches de vivre ensemble. J'en vais en prendre une superficielle. Il y a eu les moments des soldes. Ah tiens, j'irai bien m'acheter un petit vêtement sympa. Puis finalement, est-ce que j'en ai besoin? Non, pas vraiment. Alors cet argent que je pensais dépenser et que finalement j'ai encore, mais alors je vais pouvoir le donner. Le donner où? Le donner à cette association qui apporte de l'eau potable aux populations qui n'en ont pas? Ou à tel autre qui remet les amputés debout avec des prothèses bricolées avec les moyens du bord? Ou encore avec telle autre association qui donne quelques poules ou une chèvre pour que la famille puisse subsister, à charge que, quand la chèvre aura des petits, elle donne une chevrette à une autre famille et que ça fasse boule de neige. On a vraiment plein d'occasions de faire des gestes. Et puis une expérience toute récente et plus profonde. Vous savez que depuis 2 ans, le groupe œcuménique a proposé des rencontres. Il y a 2 ans, c'était la découverte des lieux de culte, les catholiques découvrant le temple, moi découvrant une des 2 mosquées. Et puis nous avons discuté en petits groupes, et à la sortie, je me suis dit, au fond, telle jeune femme, on habiterait sur le même palier, on serait en train de bavarder, elle me dirait, oh ben, écoutez, maintenant, excusez-moi, il faut que je vous quitte parce que c'est l'heure de la prière. Pourquoi pas? C'est sa liberté. C'est comme ça que sa vie est rythmée. Et puis, cette année, je me trouve avec une amie choriste, parce que le thème, c'est « Comment chantons-nous notre foi ?» Et nous nous trouvons entourés de 2 jeunes femmes avec leurs jeunes enfants. À un moment donné, il y en a une qui se lève et qui nous dit « Excusez-moi, je vais à la salle de prière. » On venait d'annoncer qu'en effet, il y avait une petite salle prévue. Puis elle revient et elle nous dit « Quand j'entends parler de Myriam, pour elle, Myriam, c'est Marie, mère de Jésus. Je pleure. Elle est dans le désert. Dieu lui dit de secouer le palmier pour qu'il y ait des dattes qui tombent et qu'elle puisse se nourrir. » Alors nous lui disons, mais pour nous, Marie est à Bethléem parce qu'il y a eu un recensement, il faut s'inscrire, c'est quelque chose d'historique. Elle nous écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention et puis elle nous dit, mais pourquoi le Fils? Pourquoi le Fils? Et à ce moment-là, nous nous regardons un peu interdites. C'est vrai ça? Cette naissance, cette conception un peu magique. Alors bien sûr, nous n'avions pas le temps de pouvoir discuter plus avant, et puis nous avions bien besoin de réfléchir. Mais vous voyez, cette jeune femme était là avec des interrogations profondes. Et puis ensuite, il y a un petit groupe de jeunes filles, de préadolescentes, habillées de blanc, musulmanes, qui ont chanté. Et on voyait les paroles transcrites en français, puisque c'était en arabe, affichées sur le mur. Et elles chantaient « Nous cherchons le visage de notre prophète ». Et je pensais à notre cantique « Nous cherchons le visage du Seigneur tout au fond de notre cœur ». Nous étions sur des chemins parallèles, même si ce n'étaient pas les mêmes, mais voilà de nouveau une proximité, une façon d'essayer de se comprendre, de s'approcher. Des membres de notre communauté sont souvent engagés avec discrétion. Peut-être pourrions-nous en entendre parler de temps en temps, au moment des annonces, pour connaître, mais aussi se laisser appeler et trouver des actes possibles à notre niveau. Soyons des porteurs de bonnes nouvelles sous toutes leurs formes et que le Seigneur nous accompagne. Amen. Thank you.